Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
La souffrance et l'espérance dans l'épître de Paul aux Romains. Voilà le thème de notre série de discussions.
Je suis content d'accueillir Sébastien sur le plateau d'Espérance aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour Yann et bonjour à tous. Nous abordons le thème de la souffrance et de l'espérance en nous appuyant sur les versets de la lettre de Paul aux Romains, chapitre 8. Ce chapitre, riche en enseignements, a retenu notre attention durant plusieurs émissions. Aujourd'hui, Sandra va nous lire les versets 31 à 39.
Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Le Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour du Christ? La détresse ou l'angoisse? La persécution? La faim? La misère? Le danger ou l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature. Et rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur.
Nous ne pouvons le nier. La souffrance est réellement présente. Elle demeure une dure réalité. Et le chrétien affligé par l'épreuve peut s'enfoncer dans un désespoir plus profond encore s'il s'attache à des croyances totalement fausses.
Lesquelles? Donnez-nous quelques exemples.
Plongé dans la douleur, confronté à toutes sortes de difficultés, le chrétien peut en déduire que Dieu ne l'aime plus. Il peut en conclure que le Seigneur s'oppose à lui. Ployant sous les épreuves, le chrétien peut croire que Dieu l'a abandonné. De même, certains chrétiens interprètent la moindre contrariété comme un signe de la désapprobation de Dieu, comme la preuve de sa condamnation et de son châtiment.
Et si nous croyons de telles choses, il devient difficile de traverser les épreuves avec foi, tout en demeurant fidèle à Dieu. Car à la souffrance s'ajoutent les doutes inutiles et le désespoir. De plus, on peut même en arriver à se priver de tout le bien que Dieu voudrait lui faire.
C'est exact, Yann. Et l'apôtre Paul devait être conscient que des personnes tenaient ces faux raisonnements. Il savait que la souffrance peut amener le chrétien à en déduire que Dieu ne l'aime plus. Dans le texte lu tout à l'heure, Paul répond justement à ceux qui nourrissent cette fausse croyance. Il démontre que certaines pensées que nous croyons vraies sont en fait des mensonges, car ces pensées s'appuient sur de faux raisonnements.
Penchons-nous alors sur les propos de l'apôtre.
Paul pose un certain nombre de questions choisies à dessein. Ces questions sont posées pour amener une réponse bien particulière. Dans ce cas précis, elles sont formulées pour nous persuader que Dieu est pour nous et qu'il nous aime, quelles que soient nos circonstances.
Prenons alors l'exemple du chrétien qui déduit, du fait de ses épreuves, que Dieu le condamne et le punit.
Au début des Romains, chapitre 8, Paul déclare: il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Ensuite, dans le texte lu tout à l'heure, Paul répète cette même vérité en posant des questions. Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous.
Mais si Dieu ne condamne pas celui qui croit en Jésus, d'où proviennent alors les sentiments de culpabilité?
Le diable se plaît à accuser le chrétien. Son objectif principal est de lui ôter toute joie, toute communion avec Dieu. Le monde aussi peut nous accuser à tort. Parfois nous-mêmes, nous avons du mal à nous pardonner nos propres erreurs et nos fautes. De plus, si constamment durant notre enfance nous avons été blâmés sur tout, il peut devenir difficile de se libérer de certaines voies accusatrices pour jouir du plein pardon de Dieu.
Mais nous sommes tous loin d'être parfaits. D'ailleurs, la Bible nous enseigne que Dieu peut nous corriger.
C'est exact, Yann. Et je voudrais apporter quelques précisions à ce sujet. Par sa parole, Dieu peut nous montrer quelles sont les conduites ou les attitudes qui ne vont pas dans notre vie. Mais dans quel but? Que désire-t-il accomplir en nous lorsqu'il nous parle pour nous corriger?
Oui, éclairez-nous à ce sujet.
La dernière fois, nous avons appris que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime et qu'il désire que tout homme et toute femme marchent comme Jésus a marché. Autrement dit, lorsque Dieu nous corrige par les moyens de la Bible ou de son enseignement, son objectif est de nous aider à ressembler à Jésus. Dieu ne nous parle pas pour nous condamner tel un juge se tenant dans un tribunal. Non. Il s'adresse à nous, ses enfants, tel un père prêt à nous encourager. Il nous invite à devenir des adultes matures, des personnes qui ressemblent à Jésus.
En effet, je comprends. Lors des missions précédentes, nous avons déjà parlé du fait que Dieu nous a adoptés pour que nous devenions ses enfants. Et si nous sommes enfants de Dieu, il est forcément pour nous et non contre nous.
Oui, mais cette absence de condamnation s'appuie sur des vérités encore plus fondamentales.
Lesquelles?
Paul nous rappelle que Dieu nous a donné son Fils pour obtenir notre pardon. Dieu nous déclare juste, innocent, à l'abri de toute condamnation parce que Jésus est mort sur la croix. Dieu a condamné Jésus à notre place. Jésus a pris nos fautes sur lui et il en a subi la condamnation, le juste châtiment. De ce fait, Dieu ne peut plus ni nous condamner, ni nous faire subir une quelconque punition. En nous donnant ce qu'il a de plus précieux, Jésus son Fils, Dieu prouve qu'il est vraiment pour nous, parce qu'il nous a offert Jésus son Fils. Dieu nous assure qu'il nous aime et qu'il nous protégera tous les jours de notre vie. Jamais il ne renoncera à nous. Par la croix, Dieu nous prouve son amour inébranlable, absolument irrévocable.
Prenons à présent un autre exemple. Imaginez le cas d'un chrétien dont la mobylette tombe en panne en pleine brousse. Certains chrétiens, plongés dans une situation semblable, se demandent: qu'ai-je fait pour mériter cela? Ou encore, pourquoi Dieu a-t-il permis qu'une telle chose m'arrive?
Et ces interrogations restent les mêmes lors d'épreuves plus graves encore. En découvrant l'existence d'un cancer, par exemple, ou encore en subissant la perte d'un enfant, nous voulons trouver une raison à tout ce qui nous arrive et souvent, nous nous demandons, Dieu m'a-t-il puni?
Et dans le livre biblique intitulé Job, ce dernier a tout perdu. Il a énormément souffert. Puis ses amis sont venus le voir et ils ont commencé à fouiller dans sa vie, convaincus que si Job était si éprouvé, c'était pour une raison bien précise. C'était parce que Dieu le punissait pour une faute commise.
Et le livre de Job démontre que ce raisonnement est faux. Job souffrait non pas parce qu'il était un homme mauvais, mais parce qu'il était bon et que, de ce fait, le diable s'en prenait à lui. D'ailleurs, l'enseignement de Paul confirme cela et il nous aide à mieux comprendre quelles sont les fausses croyances. Si Dieu a condamné Jésus à notre place, les malheurs de la vie, qu'ils soient petits ou grands, ne sont ni une condamnation ni une punition. Dieu ne veut absolument pas que les mêmes questions nous harcèlent. Qu'ai-je fait pour mériter cela? Ou bien, je ne dois vraiment pas être bien si cela m'arrive. Non, Dieu désire que nous vivions sous sa grâce et non sous une quelconque fausse condamnation. Le Seigneur veut que nous nous réjouissions d'être enfants de Dieu. Il souhaite qu'envers et contre tout, nous soyons heureux de lui appartenir.
Alors, s'il ne faut pas interpréter nos épreuves comme une punition, comment les comprendre, puisque Dieu demeure souverain et que rien de ce qui nous arrive ne se passe sans sa permission?
Nous vivons dans un monde où tout va à tort et à travers. En attendant le retour de Jésus-Christ et la vie éternelle, nous ne pouvons pas fuir le monde dans lequel nous vivons. Dieu n'est pas l'auteur des malheurs qui nous arrivent, mais, comme nous l'avons déjà appris, il veut changer nos circonstances négatives en bénédictions. Que penser lorsque nous rencontrons des soucis, des difficultés, diverses épreuves graves ou moins graves? Refusons toute pensée accusatrice du genre « Qu'ai-je fait pour mériter cela ?» ou « Pourquoi Dieu me punit-il ? » Ne nous blâmons plus inutilement, non. Posons-nous plutôt les questions suivantes. Que puis-je apprendre de cette expérience? Ou qu'est-ce que Dieu désire me révéler dans mon contexte? Ou encore, comment puis-je ressembler à Jésus dans ma situation?
Oui, de telles pensées sont bien plus positives.
Raisonner ainsi va nous aider à rechercher la volonté de Dieu pour nos vies, car Dieu veut que nous ressemblions à Jésus.
Merci Sébastien. Nous arrivons à la fin de notre émission, et pourtant nous sommes loin d'avoir épuisé le sens du texte lu il y a un instant.
C'est vrai Yann, mais nous continuerons notre étude la prochaine fois, notamment pour parler du fait que rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu.
Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Quelle belle vérité rassurante! Pour en savoir plus, rejoignez-nous dès notre prochaine émission d'Espérance aujourd'hui.
En attendant de vous retrouver, nous vous remercions pour votre écoute et vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.